Allô, c'est Sylvain dans ta radio. Le Prix du Gros est fier de commanditer et surtout de féliciter Michel Villeneuve pour l'ensemble de sa carrière en Formule 1.
Catherine Le Matin. Voici Michel Villeneuve. Que la mort ici se lève.
Salut Michel Villeneuve.
Il y a même des animatrices de radio qui sont restées prises dans leur entrée ce matin.
Non, pas dans mon entrée, dans le stationnement de la station. En fait,
c'est ça. Puis là, t'attendais que tous tes hommes aient été poussés, mais moi puis le docteur Maillon étaient occupés.
Ben oui, j'ai vu que vous autres, aucune collaboration. Merci à Serge, Claude et Raphaël. Zéro, hein, Michel, zéro pin-bar, ton aide, zéro.
On a laissé les hommes de soutien faire le travail.
Nous, alors, c'est pas
les
fin,
joueurs
ça.
De premier trio.
Hey, c'est pas fin, mais... hey Michel
non,
Villeneuve.
Mais les gars savent qu'ils vont rire.
Ben t'sais. Oui,
mais vois-tu que le Doc Mayou est en train de te pousser? Pense-y.
J'aurais aimé ça, par exemple. Sais-tu quoi? Ça aurait été viral sur les réseaux sociaux. Tu sais, les réseaux sociaux, Michel, ce sur quoi tu n'es pas, là, ça aurait été extraordinaire.
Non.
Bon. Très contente de te retrouver.
Mais moi aussi.
OK. Hein, on peut-tu parler de Louis Leblanc pour commencer?
Oui. Louis Leblanc. C'est intéressant qu'on a eu l'occasion de lire deux reportages là-dessus.
Oui.
Je te dirais que Louis Leblanc est arrivé peut-être dans la période la plus turbulente. Je te dirais la pire période du Canadien au cours des 30 dernières années, minimum.
Oui, ouais, c'est à peu près ça.
Fait que comment tu penses que le petit gars pouvait se justifier alors que... Oui, c'était un bon joueur de hockey, mais c'est un gars qui devait prendre du temps. C'était pas un talent exceptionnel qui pouvait jouer dans la Ligue nationale dès sa première année. Il a fait une erreur dans sa vie, je pense qu'il l'admet aujourd'hui. Lorsque tu choisis le programme de hockey de Harvard,
ouais.
Tu choisis parce que tu es un étudiant exceptionnel. Et si ça arrive, le hockey professionnel, mais tant mieux. Là, il y a eu de la pression qui s'est exercée pour qu'il quitte le programme de Harvard, qu'il joue une saison au hockey junior majeur et qu'il fasse ses débuts professionnels. Si c'était à refaire, il le dit. Mmh. Et moi, je comprenais pas son geste à cette époque-là. C'était un gars qui était frail. Puis compte tenu de son style de jeu, c'était pas un gars qui avait un patin exceptionnel. C'était pas un gars qui se démarquait beaucoup à des batailles à un contre un, alors que tu peux t'attendre chez les pros à vivre ça. Il aurait dû prendre le temps de maturer physiquement. Après une carrière de 4 ans là, dans les rangs universitaires, il aurait su, et le Canadien aurait su s'il était en mesure d'évoluer dans les rangs professionnels. Mais lorsque tu as la chance de signer ton contrat, d'obtenir un bon bonnet de signature, tu dis au moins ça va être en banque, je peux pas passer à côté de ça. Et je répète une chose, quand tu as la chance de t'éduquer, tu t'en joues au hockey parce que tu as choisi la voie universitaire, c'est parce que tu es... un étudiant athlète et non pas un athlète étudiant.
Ouais.
Il y a une différence entre les deux. Il aurait dû faire tout son parcours à Harvard et après ça, ouais. un coup, son école, son diplôme obtenu, là, tu prends une direction ou une autre. C'est facile pour moi de dire ça.
Non, mais
encore une fois, c'est un autre exemple que pour les parents dont les enfants choisissent le hockey scolaire, le hockey universitaire, les études priment,
ouais.
Le hockey, c'est un bonus.
Ouais. Mais Michel, tu le disais d'entrée de jeu, il est tombé dans la pire période du Canadien. Il raconte dans la lettre qu'il adresse, il dit la lettre à mes dénigreurs, ouais. Quand il a marqué son premier but avec le Canadien, il dit, ce match-là, j'aurais pu marquer 2-3 buts. Il dit, après mon but, j'ai quasiment pas joué de la partie. Le lendemain, Jacques Martin était remercié, remplacé par Randy Conyward. C'est de douloureux souvenirs là, à l'époque. On peut pas dire que ça l'a aidé, mais tu sais, il dit dans sa lettre, je suis pas capable de dire exactement qu'est-ce qui fait que ça a pas marché à ce point-là. Ton explication à toi, c'est quoi?
Les astres étaient mal alignés, il était pas prêt, et le Canadien ne pouvait se permettre de l'amener. On devait absolument le monter pour donner espoir aux partisans parce qu'il se passait rien, puis on a raté son coup. Transposons la situation d'aujourd'hui. Louis Leblanc s'amène à la place de Kotkaniemi. Dans une atmosphère qui est beaucoup plus propice au développement d'un jeune joueur, où tout le monde tire dans la même direction, le leadership a changé de main, alors qu'à l'époque où s'est présenté Louis Leblanc, il n'y en avait pas de leadership. Puis le Canadien, on parlait toujours des leaders, mais qui sont toujours absents lorsque ça va mal. Malin dans la même situation aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'a pas le même talent que Kotkaniemi. Sauf que la situation... on disait qu'il fallait avoir une combinaison, comment on disait ça en politique, là? Les conditions gagnantes étaient réunies.
Mm-hmm.
Les conditions gagnantes sont réunies pour Kotkaniemi. On peut se permettre d'être patient. On peut permettre de nombreuses erreurs parce que le jeune homme a du talent, puis on sait qu'il va progresser. Ça amène Louis Leblanc dans une situation comme celle-là. Peut-être que son avenir change complètement, mais le ciel était noir à cette époque-là et ça a été une victime collatérale de ces mauvaises années de gestion chez le Canadien. Ouais.
Bon,
le petit gars, sans doute, des choses à se faire à se faire pardonner aussi. Là.
Oh oui.
Il n'est pas blanc comme neige, sauf que j'en connais pas beaucoup qui auraient passé à travers ça.
Non, t'as raison.
Moi, je tire un point à la ligne puis je le critique pas.
OK. Bon, nouveau quatrième trio chez le Canadien. On s'est-tu amélioré, Michel? Pas sûr, on dirait. J'ai raté ça, je devais.
Écoute,
une grosse transaction chez
le Canadien. Ça va être facile de suivre 20, 21, 22. C'est leur numéro.
C'est vrai, t'as raison.
Des Lauriers le 20, Thompson le 21 et Weiss le 22. Bon, on a un quatrième trio. Bon, ce quatrième trio-là doit être en mesure de au moins tenir son bout à 5 contre 5, de ne pas permettre à l'adversaire des chances de marquer, de donner ou de changer le tempo d'une partie, d'assurer une présence physique, est capable, pour Claude Julien, qui aime utiliser un quatrième trio, d'évoluer entre 8 et 10 minutes par partie. Je pense qu'on devrait voir ça, mais j'aurais aimé que ces acquisitions-là aient un impact aussi sur l'ensemble du reste de l'équipe, et je m'explique. Mm-hmm. Il y a un texte intéressant ce matin qui nous apprend que Philippe Dano ne jouera pas en avantage numérique. Philippe Dano, qui est le troisième meilleur marqueur de l'équipe, qui se débrouille très bien offensivement. D'ailleurs, moi, je comprends toujours pas comment on démembre un trio qui a du succès à 55 alors qu'on joue à 54. Ça, c'est une des grandes, un grand mystère du hockey. Ton trio est dominant à 55. Il y a une chimie extraordinaire. Tu l'utilises pas en avantage numérique. Tu changes des éléments. Mais voyons donc, là où tu as besoin d'avoir une chimie, là où tu as besoin que les joueurs se sentent sur la patinoire sans se voir, tu sais que la rondelle, si elle va là, ton coéquipier va être au bon endroit. C'est cette chimie-là qui n'existe pas chez le Canadien. Alors qu'on cherche des solutions à tout vent, pourquoi qu'on prend pas le gros bon sens, qu'on revient pas à la base? Un trio qui fonctionne, tu l'embarques sur la patinoire. Le trio de Dano, j'ai pas de trouble à l'avoir sa glace en avantage numérique. Et le trio de Taidomi, j'ai pas de misère là-dessus non plus.
Non.
Il s'agit d'ajouter un quatrième joueur plus offensif qui va jouer dans une autre position. Mais à partir de ce moment-là, pourquoi ne pas utiliser ça alors que le jeu de puissance demeure une grande énigme chez les Canadiens? On dit, faut garder Dano pour les mises en jeu importantes lorsqu'il va affronter le gros trio adverse. Mais si le trio de Thompson, Deslauriers et Weiss parvenait à gagner la confiance d'un entraîneur, à ce moment-là, on n'aurait pas des raisons d'expliquer que la présence d'un trio régulier. Moi, je comprends pas ça, là.
Non,
tout le monde
d'accord.
cherche des solutions sur le jeu de puissance. Ah. La plus niaiseuse, laissez donc un trio comme ils le sont
exact.
À l'attaque. Ils ont du succès à 5 contre 5. Puis on verra ce que ça va donner. Il n'y a aucune chimie qui s'est développée en avantage numérique chez tous les joueurs utilisés depuis le début de la saison chez le Canadien. Y a-tu quelqu'un qui peut sonner à la cloche dans le bureau de Claude Julien et dire « Montre-Claude! » On va donner un trio régulier. On va voir ce que ça va donner.
Ouais.
Emploi, je sais pas. Drouin, s'il est sa glace pour la première partie de l'avantage numérique sur son trio, vous l'enverrez sa pointe dans la deuxième partie. Puis si Domi joue sa pointe dans la première partie, vous l'enverrez à l'avant dans la deuxième portion de l'avantage numérique.
Mais
voyons
Michel,
donc.
Je vais te faire, en terminant, je vais te faire un comparatif de ce que j'ai vu en fin de semaine. Okay? J'étais à Vegas pour le match des Golden Knights samedi. Contre les Blue Jackets.
Oui.
Et j'ai vu plusieurs choses. Premièrement, j'ai vu Max Pacioretty pas plus impliqué qu'il l'était à Montréal. Là. On comprend
pas
pourquoi.
Changement.
Bon, ça n'a pas changé. Mais je t'explique. Les Golden Knights tirent de l'arrière en troisième. Gallant coupe son banc. Il fait jouer ses deux premiers trios. Fait que Pacioretty en a eu du temps de glace. Puis il met ses meilleurs éléments. Donc, pour dire, hey, faut marquer un but, là. Ce qu'on ne voit pas chez Claude Julien. Tu sais, Claude Julien, des fois, il reste 8 minutes, puis tu vois le quatrième trio, puis il tire de l'arrière 3-2, puis tu sais pas pourquoi ils sont là. J'ai vu deux stratégies, deux façons de faire complètement différentes. C'était ça, la stratégie. Mets tes meilleurs, puis tu vois, ils ont réussi à marquer. Bon, ils ont perdu en prolongation, mais t'as deux façons de coacher complètement différentes. Puis je peux juste te dire une affaire, Michel. J'ai été assez impressionné de tout ce qui gravite autour des Golden Knights.
Ben ouais.
L'espèce de buzz. de côté festif là, tu sais au Centre Bell là.
C'est spectacle.
Vegas. Ça, Michel, ça a rien à voir. Ouais. Tu sais au Centre Bell, on a amélioré les choses là, mais tu sais on est loin des. Je sais qu'on a changé, on a mis un DJ, mais tu sais à Vegas là, c'est spectaculaire l'ambiance, le DJ live. Tu sais on est loin des petites chansons du Centre Bell. C'est quasiment
ouais,
ça
on
là.
On va pas au hockey pour la même chose à Vegas qu'à Montréal. À Montréal, on va au hockey, on aime le Canadien, on aime le hockey, on va aller voir notre club gagner. À Vegas, tu vas au hockey, c'est une des nombreuses options de divertissement dans la ville. On s'organise pour avoir un bon show. On veut que la personne qui dépense 50 ou 60 $ américains pour aller assister au match, d'ailleurs, t'as remarqué, c'est pas si cher que ça, pour assister à un match de hockey, oui.
Je vais te reprendre.
Comment
tu as
payé tes billets?
142 piastres.
Puis tu étais assez haut?
Non, on était assez haut. Fait que non, là, lâche-moi le 50, c'est pas ça, là. Non, c'est cher.
Non, je pensais qu'il y avait tu peux pas avoir des billets de 50 à 60 $ dans le dernier.
Ben, moi, j'en ai pas trouvé, ça fait longtemps qu'ils sont achetés, là. Fait que j'ai. Non,
fait que t'as pas profité des rabais?
Il n'y avait pas beaucoup de rabais. Non. Non, mais bon, c'est correct, là, on s'attendait à ça. Mais ce que je veux dire, c'est que l'expérience hockey est différente. C'est une autre affaire.
C'est l'expérience de divertissement de 3 heures. C'est une option de divertissement.
Oui, mais c'est le fun.
T'as le hockey, mais le hockey, est-ce que le hockey prend toute la place ou c'est tout l'entourage? On dirait que tout le glaçage qu'on met sur le gâteau a une proportion équivalente dans le spectacle. Et t'as aussi impressionné parce que t'as vu sa patinoire, que ce que t'as vu à l'extérieur de la patinoire, comment on remplit les moments vides. Dans un spectacle comme celui-là, on a développé une expérience.
Ouais, je comprends.
Je verrais difficilement reproduire ça à Montréal.
Pas exactement.
On veut tellement innover, puis on est tellement conservateur.
Oui, bien justement. Mais il faudrait penser différemment. Je peux te dire que l'expérience est agréable. Oui, le contexte, Vegas, évidemment, là, c'est la ville du divertissement, puis du vice et tout ce qui vient avec. Là. Mais quand même, en tout cas,
Quand tu vas au hockey à Vegas, c'est comme si tu allais au hockey à Montréal au mois de mai à tous les années.
Oui.
C'est attendu, tu te promenais pas en maillot de bain là, la semaine dernière à Vegas.
Non.
Il y a un hiver, tout ça, c'est plus frais. Ouais. Sauf que tu vas assister au hockey dans l'ensemble de l'année dans des conditions qui sont plus... C'est le fun d'aller au hockey en gougoune.
Ouais, mais on n'était pas en gougoune.
C'est le fun d'aller au... Non, mais je te dis ça. Là, en Floride, tu vas pas au hockey en gougoune parce que tu vas geler dans l'aréna.
Non,
sauf que tu t'en vas, tu es à l'extérieur, c'est festif. Aller au hockey à soir au Centre Bell, là, dans la tempête de neige, là.
Je compare pas la température, mais moi, je suis allé voir d'autres matchs dans d'autres villes, puis je peux dire qu'en Floride, les Panthers, c'est pas un événement comme à Vegas, ils ont créé. Je comprends, Michel, pourquoi ils vendent leurs billets. C'est que c'est une expérience. Et je peux te dire que ça fait du bien. C'est comme le fun. T'es impliqué comme partisan. J'ai trouvé que c'était différent. OK, on se laisse là-dessus.
Mais j'ai hâte de voir. Garder la pédale au fond, comme ça, durant des années, il va falloir que l'aspect hockey, parce qu'ils ont connu le Nirvana, eux, l'an passé.
Oui, je sais.
Ils sont allés quasiment jusqu'au bout. Je dis une affaire, la pression est forte. N'oublie pas que les Raiders s'amènent. Ça va être intéressant
absolument,
de suivre ça.
Absolument, tout à fait.
L'année prochaine, puis l'année d'après.
Ouais.
Pour voir est-ce que le voyage de noces, la lune de miel, va se poursuivre.
Bon, c'est ça. Ça, on verra pour la suite des choses. OK, on s'en reparle demain.
En tout cas, ça va être 2021-2022,
2021-22.
Quatrième trio du...
Ah oui, OK, excuse-moi, je m'ai perdu. OK, hey, salut Michel, à demain.
Attention, j'ai aimé ça de parler des peanuts et des crackers.
Oui, mais là, on manque de temps, Michel.
Je vais t'en parler demain.
OK, parfait.
C'est intéressant.
OK, bye. Salut, à demain, bye-bye. Michel Villeneuve, tous les jours, 7h40.